Gloire à Dieu, nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 19, Luc 19, 28 à 40. Luc 19, 28 à 40.
Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant : Allez au village qui est en face. Quand vous y serez, entrez, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ? » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ? » Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait à Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. »
Amen. S'ils se taisent, les pierres vont crier, les pierres vont dire que Jésus-Christ est glorieux et Seigneur, c'est le Fils de Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Nous allons parler d'un thème intitulé « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et cette phrase se trouve dans Psaume 68, verset 29. Psaume 68, verset 29, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu lui-même. Nous allons lire cela, Psaume 68, 29. « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. »
Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous.
Amen, amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, même si c'est ça le thème, nous parlerons beaucoup plus d'un autre thème qui est que tout est soumis à Dieu. Mais le fait que tout soit soumis à Dieu doit nous rassurer sur le fait que, étant ses enfants, étant ses filles et ses fils, il nous confère cette autorité-là. Jésus, avant de s'en aller, de s'en retourner au ciel, il dit « Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. » Sous-entendu, je vous donne le même pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, l'exemple qu'on a pris en premier lieu de Jésus qui, avant d'entrer à Jérusalem, demande à ses disciples d'aller récupérer un ânon qui ne leur appartenait pas, puisque Jésus n'habitait pas ce coin-là. Mais il leur dit, allez récupérer cet ânon. D'ailleurs, il n'y a personne qui n'a jamais utilisé cet ânon pour s'asseoir. Mais si on vous demande, mais pourquoi vous prenez ça? Dites-leur, le Seigneur en a besoin. Pourquoi nous prenons cet exemple? C'est pour montrer que tout est soumis à Dieu. Tout. Même Satan est soumis à Dieu. Les atomes, tout est soumis à Dieu. Tout, tout. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprendra pas la suite. Qui est ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il faut d'abord comprendre que tout est soumis à Dieu. Dieu décide sur tout. Il donne un ordre et la chose s'accomplit. Tout est soumis à Dieu. Ça, c'est le premier point. Comment Jésus peut récupérer un anneau qui n'est pas à lui? Et les gens obéissent. Quand on leur dit, c'est le Seigneur qui en a besoin, ils se taisent. Ils laissent faire. Cet exemple nous est donné pour nous faire comprendre que tout est soumis à Dieu. Il ordonne surtout l'univers, le climat, surtout. On tente de nous convaincre qu'il y a des phénomènes de réchauffement climatique, mais les Écritures disent que c'est Dieu qui envoie la sécheresse, qui envoie ces choses-là, en fonction des péchés des humains, en fonction du comportement des humains. Donc plus le péché augmentera, plus il y aura des bouleversements climatiques. Ça fait partie des sanctions divines. Parce que c'est Dieu qui décide sur tout. C'est ça la première partie. Tout lui est soumis et voilà que l'anneau revient et avec les disciples, vient avec les disciples, Jésus se pose dessus et quand il entre à Jérusalem, les gens viennent l'adorer, poser leurs vêtements au sol, et c'est l'anon qui marche sur les vêtements de ces personnes-là. Ils crient, ils louent Dieu, ils disent « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Les gens sont dans l'effervescence devant la gloire de Jésus, assis sur un âne. Et les pharisiens disent, mais fais-les taire, qui se taisent. Jésus dit, si ces gens-là se taisent, les pierres, elles, vont dire que je suis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Entre guillemets, je suis tellement puissant, je suis tellement glorieux, que cette puissance va parler d'elle-même. Quitte à utiliser les pierres. Maintenant, nous revenons sur notre sujet. Dieu, à travers Jésus, a fait de nous ses enfants. Conséquence, nous héritons, nous sommes cohéritiers avec Jésus de ce que Dieu, de ce que tout lui soit soumis. Toute la Bible parle de ce sujet. Le sujet que l'on partage aujourd'hui est disséminé dans toute la Bible, depuis le départ. Quand Dieu dit à Adam et Ève, ben, dominez sur les poissons, sur les animaux. Dès le départ, Dieu veut transférer un pouvoir à l'homme. Dès le départ, donner les noms aux animaux. Tout est là. Quand Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, nul ne tiendra devant toi. Tout est là. Tout lieu, dans Josué 1:3, il dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, tu l'auras en possession. Nous sentons que Dieu confère son pouvoir à ses élus, à son peuple. Psaume 68:29 parle du peuple de Dieu de l'ancienne alliance. Et aujourd'hui, nous nous sommes encore davantage rapprochés de Dieu en devenant ses enfants, cohéritiers avec son Fils unique. Si dans l'ancienne alliance, il a dit, Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais quand sera-t-il dans la nouvelle alliance? Le destin des enfants de Dieu, c'est celui-là. Être puissant, être brillant comme leur papa. Et c'est ce qui est logique. Le destin d'un lionceau, c'est devenir un lion. C'est logique. Nous n'inventons rien. Mais cette logique a été perdue au fil des années, au fil des échecs, au fil des difficultés. Les chrétiens ont commencé à se contenter de peu et vivre sur la terre comme dans une salle d'attente qui doit les amener, qui leur permet d'attendre le retour du Seigneur pour s'en aller. Et le monde ne peut plus voir Dieu. Puisque pour que le monde voie Dieu, il faut qu'il voie Dieu dans ses enfants. Dieu est invisible. Il devient visible à travers ses enfants, comme il a été visible à une époque à travers son fils Jésus. Aujourd'hui, il veut devenir visible à travers ses enfants. Or, si ses enfants se comportent pas comme Dieu l'attend, d'être de flambeaux dans ce monde, le monde ne voit pas Dieu. Le monde se moque de Dieu. Quand Dieu dit « j'ordonne que tu sois puissant », l'objectif c'est que les gens le voient, que les gens voient qu'il y a quelque chose qui dépasse le système du monde, quelque chose qui dépasse l'argent, quelque chose qui dépasse la médecine, quelque chose qui dépasse la force humaine. Quand Dieu permet que David triomphe de Goliath, parce qu'il veut montrer qu'il y a quelque chose qui dépasse la force physique humaine. Ton Dieu veut que tu sois puissant pour que les gens le voient à travers toi. C'est ça l'objectif de Dieu. Et vous savez, il y a plein d'exemples qu'on peut citer sur tout ça. Donc nous allons enchaîner, lire quatre phrases du Seigneur. On commence donc dans Matthieu 16, 18 à 20, et puis Marc 16, 17 à 20, Luc 10, 19, et puis pour finir à 1 Jean 4, 4, qui nous montre les intentions du Seigneur. Matthieu 16, 18 à 20.
Et moi je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux.
Voilà ce que dit le Seigneur. Tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église. Les portes du séjour de mort, c'est-à-dire les forces des ténèbres, n'auront pas le dessus sur vous. Nous avons le dessus sur les forces des ténèbres qui régissent ce monde. Nous avons le dessus. Mais est-ce que c'est vécu comme tel? Non. Parce que les gens ont négligé ton Dieu ordonne que tu sois puissant. À cause de certaines difficultés, ils ont reculé. Non, nous devons nous ressaisir des passages bibliques, nous ressaisir de la pensée divine pour aller de l'avant de nouveau. Nous lisons Marc 16, 17 à 20.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, prêchés partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole pour les miracles qui l'accompagnaient.
Voilà. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils vont saisir des serpents, rien ne va leur arriver. Aujourd'hui, dans le milieu pastoral africain, il y a tant de pasteurs empoisonné et qui meurt. Là, nous venons de lire qu'ils prendront des breuvages mortels et ils survivront à cela. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Nous ne voyons pas cela. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils imposeront les mains aux malades. Aujourd'hui, nous voyons tant de, entre guillemets, pasteurs qui se retrouvent à l'hôpital, dans l'agonie de la mort avec Alzheimer, toutes sortes de maladies. Je ne dis pas qu'on ne peut pas mourir de maladie, je dis tout simplement que c'est trop. Voilà, c'est juste que c'est trop. Or, le Seigneur dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de moments de difficulté ni de faiblesse. Ça veut dire tout simplement que nous expérimenterons la puissance glorieuse céleste. Elle sera visible. Malgré nos faiblesses, elle sera visible. Vous savez, quand on lit ce verset, ça nous rappelle quoi ? On se rappelle ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul quand ils font naufrage. Ils sont sauvés parce que l'ange avait prévenu Paul qu'ils seront tous sauvés. Ils sortent du bateau qui est cassé. Ils arrivent sur le rivage. L'apôtre Paul rassemble des brindilles, des branches pour faire un feu. Et pendant qu'il rassemble les branches, il y a un serpent qui sort du tas de branches et qui le mord. Et les gens disent, ça y est, il va mourir. On voit bien que le destin s'acharne sur lui. Il devait mourir dans le bateau, il a été épargné. Et là, c'est le serpent qui le pique. C'est pour sa mort. Les gens ont attendu la mort de Paul. Quelques temps après, il restait toujours vivant, en bonne santé. Ils ont conclu quoi ? Ils ont dit, c'est un Dieu. Voilà. Ils sont passés de le considérer comme un humain maudit à le voir comme un Dieu. C'est ça l'intention de notre papa. C'est que lorsque les gens vont nous observer, qu'ils se disent, ils sont Dieu. Il y a quelque chose de divin en eux. Quelque chose qui vient du ciel, quelque chose qui dépasse la terre. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et même quand nous sommes en position humainement, charnellement de faiblesse, quand Jésus se retrouve à la croix et qu'il y a un tremblement de terre, et l'obscurité qui remplit pendant 3 heures la terre, il y a le centenier qui était au pied de la croix qui dit, cet homme était certainement le Fils de Dieu. Pourtant, il est à la croix. Pourtant, il est à la croix quand son voisin dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est ça le désir de notre Père. Que nous soyons puissants, quelle que soit la situation humaine, que ce soit clair que nous sommes reliés au divin, au céleste. Ce n'est pas pour se vanter. Dire, on est des fils du roi et puis faire l'orgueilleux. Au contraire, non. On devrait être davantage simple parce que cette puissance vient du ciel. Mais nous devons vivre cette vie-là où la puissance de Dieu, la gloire de Dieu est claire. Puisque tout est soumis à Dieu et nous sommes ses enfants, donc tout nous est soumis. Mais pour participer à ça, nous allons voir, il y a deux points très importants, ou trois. Tout est soumis à Dieu, tout devrait être soumis, mais pourquoi tout n'était pas soumis ? C'est ça. Notre problème, nous continuons à lire toutes les promesses liées à la gloire des enfants de Dieu, à la puissance des enfants de Dieu. Luc 10, 19.
Voici,
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire.
Voilà. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Mais on entend à gauche, à droite, les chrétiens trembler devant les sorciers, devant la puissance du monde des ténèbres. Vous savez, il y a un chrétien au Sénégal, dans son village, il devait accueillir des missionnaires qui venaient de France. Et il a fait une forme de publicité, une forme d'annonce concernant ces événements-là. Et le marabout du village, le grand féticheur du village, s'est fâché terriblement contre lui. Il lui a dit, en public, il a humilié en public devant tout le monde pour dire « ça n'aura pas lieu, votre prétendue évangélisation ». Et il a vraiment presque frappé en public. Le chrétien était déstabilisé. Il a tremblé, mais il a crié au Seigneur. Et les missionnaires ici aussi ont prié le Seigneur. Ils ont rappelé au Seigneur que c'était lui le Dieu Tout-Puissant. Tout lui était soumis. La terre était à lui. Même ce sorcier-là lui était soumis. Bien-aimés, deux à trois jours avant que les missionnaires n'arrivent, il y a eu une légère pluie, mais curieusement, cette légère pluie a attiré quand il y a une décharge électrique, la foudre, c'est ça, attiré la foudre. Et cette foudre a consumé la cabane, la hutte du grand sorcier, et lui, il a été brûlé dans ce feu-là, et il en est mort. Quand les villageois ont vu ça, ils ont reconnu, comme ils avaient été témoins du cri de menace de ce sorcier, de l'humiliation publique du chrétien. Ils étaient témoins quand le sorcier a menacé en disant « ça n'aura pas lieu ». Et quand ils voient qu'une petite pluie insignifiante provoque une foudre, la foudre, qui frappe et brûle la maison du sorcier ainsi que lui-même, ils reconnaissent qu'il y a eu confrontation et que le Dieu du chrétien l'a emporté de sorte que quand les missionnaires arrivent, ils n'ont pas eu à faire un petit effort, un grand effort. Ils avaient qu'à distribuer, les gens disaient d'eux-mêmes, nous voulons devenir chrétiens. Voilà ce que Dieu attend. Même si nous connaîtrons des temps de difficulté, comme quand ce monsieur-là humilie le chrétien, il prend le dessus sur lui en public, par la verve, par les cris et la menace. Mais en réalité, tout est soumis à Dieu et tout est soumis aux chrétiens, comme nous allons le voir, aux chrétiens qui lui-même est soumis à Dieu. Si tu te soumets à Dieu, ce qui est soumis à Dieu te sera aussi soumis. Bien-aimé, il y a plein de promesses. Là, on a lu Luc 10, 19. Hein? Tu marcheras sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. On a bien dit, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est écrit. Maintenant, nous lisons 1 Jean 4, 4. Mais j'en citerai d'autres en parlant. 1 Jean 4, 4.
Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Amen. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus dit à Nathanaël, quand il fait un miracle devant Nathanaël, il dit à Nathanaël, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier, donc à distance, loin, donc, en dehors de la portée des yeux au-delà de la portée des yeux de Jésus, Jésus l'avait vu. Alors Nathanaël dit, mais ce n'est pas possible. Comment il peut me voir alors que je suis caché à ses yeux? Il ne peut être que le Fils de Dieu. Jésus lui dit, calme-toi Nathanaël. Ça, c'est rien du tout. Tu verras de plus grandes choses. Tu verras le ciel ouvert et des navettes entre le ciel et la terre pour apporter la gloire divine sur la terre. Ah, si Jésus a défini le miracle de voir Nathanaël alors qu'il était caché à ses yeux, comme étant quelque chose de petit et qu'il y aura de plus grandes choses. Voilà. Est-ce qu'on peut réaliser les promesses qui nous sont faites à travers tout cela? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi, jette-toi à la mer. Quelle promesse nous n'avons pas de promesse de gloire, promesse de sainteté, promesse de ressemblance à Dieu. Il y en a beaucoup trop. Nous devons nous poser la question, qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous faisons de tout ça? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Nous devons nous rebrancher sur tout cela. J'ai donné les textes du Nouveau Testament rapidement pour nous dire que les promesses sont énormes, en grande quantité. Maintenant, nous allons lire concrètement l'attitude qu'il nous faut pour expérimenter tout cela, vivre tout cela, et en même temps, un exemple des gens qui nous ont précédés, qui ont vécu cela. Nous lisons dans Daniel, chapitre 3, 14 à 30, dans un premier temps. Daniel 3, 14 à 30.
Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit « Est-ce de propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne vous servez pas de mes que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée.
Nous nous retrouvons à Babylone où les amis de Daniel et Daniel sont déportés. Et leur pays, leur peuple ayant perdu la guerre face aux Babyloniens. C'est une situation de défaite, d'échec. Oui, mais pas pour l'enfant de Dieu. Ce qui arrive à un enfant de Dieu, c'est voulu de Dieu pour son bien. Romains 8, 28. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une situation de défaite pour le peuple de Dieu parce que le peuple de Dieu a péché, a désobéi à Dieu. Mais l'enfant de Dieu obéissant qui subit ça est au-dessus de cela, malgré une apparence de défaite, parce que lui, il est en ordre avec Dieu. Nous pouvons être dans un pays qui connaît la sécheresse, qui connaît la corruption, qui connaît la pauvreté à cause de ses dirigeants et du peuple corrompu. Mais si nous, nous sommes à Dieu, droit, pur, cette situation, elle ne va pas s'imposer sur nous, elle sera à nos pieds. Nous sommes au-dessus de cela. Il faut qu'on réalise ça, bien-aimé. Il faut qu'on comprenne. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu dois être au-dessus. Même si en apparence tu es en dessous, ce n'est qu'une apparence, la réalité. C'est ce que les amis de Daniel font comprendre au roi. D'accord, tu as battu notre pays. Nous nous retrouvons esclaves ici. Cependant, nous continuons à penser que notre Dieu est plus grand. C'est le véritable. La situation qui nous arrive, c'est notre propre faute. C'est de notre propre faute. Ça n'a rien à voir avec la supériorité de ta statue. Ta statue, ce n'est qu'une construction humaine. Notre Dieu, c'est celui qui a fait les cieux et la terre. Tu nous as vaincus par notre faute. Ce n'est pas parce que notre Dieu est faible. Bien aimé, même s'il nous arrivait de pécher et qu'à cause de ça, les conséquences nous mettent à terre, notre papa n'est pas vaincu. Notre Dieu n'est pas vaincu. La croix n'est pas vaincue. La croix est toujours au-dessus. Le sang de Jésus est toujours au-dessus. Nous devons nous rappeler de tout ça. Ne laissons pas le diable nous voler l'œuvre accomplie à la croix par Jésus en voulant centrer l'affaire sur nous. Si il veut centrer l'affaire sur nous, nous nous la sortons de nous, nous mettons ça en Christ et nous avons la victoire. Ils ont dit au roi, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Notre Dieu est le plus grand. Ah bon? On va voir s'il va vous délivrer alors. Nous continuons.
Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi !» Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, « sortez et venez !» Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints.
Voilà un miracle extraordinaire qui rejoint tout ce que nous sommes en train de dire, que le Seigneur veut montrer sa divinité à travers son peuple, à travers ses élus. Les gens comprendront la divinité de Dieu à travers nous. C'est écrit aussi dans Éphésiens 3:10, mais on ne va pas lire tous les passages. Donc dans Éphésiens 3:10, c'est dit que Dieu montrera sa gloire, sa puissance, même aux forces des ténèbres qui pensaient le connaître. Il va leur montrer qu'ils ne le connaissaient pas très bien, mais il va utiliser qui? Il va utiliser l'Église. C'est écrit dans Éphésiens 3:10. Puisque nous venons d'en parler, nous allons lire quand même Éphésiens 3:10 et revenir sur Daniel rapidement, chapitre 3. Éphésiens 3:10.
Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu.
Voilà. Que les autorités, donc même les esprits, ne connaissent pas Dieu vraiment. Ils l'ont connu avant nous, mais ils le connaissent pas très bien. Mais ils vont voir sa sagesse, sa puissance infinie à travers l'Église, c'est écrit. À travers l'Église. Mais, voilà. Beaucoup n'ont pas saisi cela. Ils mènent une vie de salle d'attente et le monde ne peut pas voir Dieu comme cela. Les gens ont besoin de voir la gloire de Dieu, réaliser. Vous savez, il y a parfois des satanistes, des sorciers qui ont entendu parler de Dieu, mais qui pensent que leur Dieu à eux, Satan, est plus fort. Et du coup, il faut une certaine confrontation avec un vrai enfant de Dieu pour qu'il réalise que le Dieu dont ils entendent parler est réellement le véritable Dieu. Il est plus fort que leur faux Dieu Satan. Mais ils ont besoin de faire face aux vrais enfants de Dieu. Mais quand ils n'en trouvent pas, quand ils entendent parler d'église et qu'ils vont faire un tour là-bas, ils entendent parler des enfants de Dieu qui le confrontent et ils en sortent vainqueurs, ils finissent par croire que Satan est plus fort. Nous revenons sur Daniel chapitre 3. Nebuchadnezzar se croyait soutenu par des faux dieux puissants qui l'ont poussé à faire sa statue devant laquelle devait se prosterner tout humain. Mais les amis de Daniel ont dit non, notre Dieu, c'est lui le véritable, ton Dieu est faux. C'est la confrontation. Et dans la confrontation, le Dieu d'Israël sort vainqueur parce qu'il manifeste sa puissance auprès de ses trois amis de Daniel et il se rajoute à eux dans le feu, de sorte que le feu ne les atteint même pas par l'odeur, même pas par l'odeur. Mais est-ce que c'est ça le plus important? Non, ce n'est pas ça le plus important. Écoutez le plus important. C'est le roi qui va le dire. Quel est le plus important? On continue verset 28.
Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. »
Amen, amen. Donc deux étapes. Je bénis, dit Nebuchadnezzar, le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Oui, on a vu son ange, dit Nebuchadnezzar, qui délivre ses serviteurs. Mais le plus important, c'est la suite. Ses serviteurs ont eu confiance en Dieu, en lui, et ont préféré violer l'ordre du roi et livrer leur corps plutôt que servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Ces gens-là ont foi en leur Dieu. Ce passage nous montre la première étape. Tout est soumis à Dieu. Si nous voulons que tout nous soit soumis, il faut qu'on connaisse notre Dieu et qu'on ait foi en lui. C'est la première chose. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Il faut que nous connaissions Dieu. Osée 6 aussi le dit, cherchez à connaître Dieu. Il faut que nous sachions à qui on a affaire. Vous savez, quand Jésus dit à la tempête, silence, tais-toi, il avait déjà fait des miracles avant. Mais quand il fait ce énième miracle en disant à la tempête qui faisait bouger les. Qui soulevait des vagues d'eau, silence, tais-toi. La mer de Galilée et la tempête s'arrêtent net de bouger. Les disciples, les apôtres qui avaient déjà vu d'autres miracles, ils disent la phrase suivante, « Mais qui est cet homme à qui obéissent même la tempête et les eaux ? Qui est cet homme ? Il faut qu'on sache à qui on a affaire. » Et c'est là que quand on demande à Pierre, « Je suis qui ? » Il dit, « Mais tu es le Fils de Dieu. » Parce que comment quelqu'un peut dire à la tempête, « Silence, tais-toi. » Le centenier romain, quand il voit la le tremblement de terre et le ciel qui s'obscurcit dit, mais non, mais celui-ci était réellement le Fils de Dieu, même s'il est à la croix, c'est lui le Fils de Dieu. Parce que les éléments sont en train de réagir à ce qui se passe là. C'est ce que Dieu veut pour l'Église, pour les enfants de Dieu. Que même si nous nous retrouvons pauvres, ou à l'hôpital, ou en prison, mais qu'il y ait une manifestation céleste dans cet endroit-là. Mais cela est possible comment? Si nous-mêmes, nous connaissons Dieu. Au fait, si nous-mêmes, nous sommes conscients que tout lui est soumis, vraiment. Si nous sommes conscients que tout est soumis à Dieu, si nous le connaissons comme tel, et que nous mettions notre foi en lui, ben, cette conscience-là, cette connaissance de Dieu, va faire que les choses nous soient soumises. Les amis de Daniel, c'est ça que c'est pas moi qui le dis, c'est le roi lui-même, il dit, mais ces gens-là avaient connaissance du fait que leur Dieu est plus grand. Ils en avaient la connaissance et ils l'ont démontré par la confiance qu'ils ont posée sur cette connaissance. La foi montre que tu as saisi à qui tu as affaire pour violer un ordre qui t'entraîne à la mort rapide, dans le feu. Tu dois être conscient que ton Dieu est plus fort et plus grand. Eux, ils ont été sauvés, mais il y en a d'autres qui n'ont pas été sauvés. Des chrétiens au premier siècle et dans les siècles, les 10 premiers siècles, même les 15 premiers siècles, beaucoup de chrétiens ont été brûlés, ont été livrés aux animaux sauvages. Ce n'est pas tout le monde qui a été sauvé. Mais pendant qu'on les y amenait, ils chantaient les louanges de Dieu. Une fois, avant l'exécution des chrétiens, le chef des exécuteurs, voyant la gloire de Dieu émaner des chrétiens qui chantent avant leur exécution, il a dit, attendez, c'est moi que vous devez exécuter d'abord avant, parce que maintenant je crois en leur Dieu. J'ai vu sa gloire. Donc moi aussi, je me mets du côté des condamnés à mort, parce que je crois comme eux maintenant. Alors qu'ils sont au seuil de l'exécution, la gloire, le ciel se manifeste. Notre problème à nous, c'est quoi? Nous voulons que Dieu manifeste sa puissance à l'image du monde. Que je ne sois pas condamné, que je sois à l'aise, qu'on me mette à l'aise, que tout marche pour moi. Non, Dieu ne peut pas nous fortifier par le système du monde. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous la donne comme le monde ne la donne pas. Ce n'est pas de la même manière. Il va laisser faire pour que lui surplombe le monde. C'est ce qui s'est passé là. Il a laissé faire, envoyé-le dans le feu. Lui, il a surplombé le feu. Devant ça, Nebuchadnezzar reconnaît que c'est lui le véritable Dieu. Mais surtout, il reconnaît que ces gens-là ont eu foi en lui. Ils connaissaient leur Dieu. Ils connaissaient leur Dieu. C'est le début de tout. Est-ce que nous connaissons notre Dieu? Je parle pour moi-même. Hein? Est-ce que nous connaissons Dieu? Si vraiment nous connaissons Dieu, nous allons avoir foi en lui. La prière qu'on va faire aujourd'hui, c'est que Dieu nous aide à le connaître. C'est pourquoi c'est écrit, vous connaîtrez et vous serez libres. C'est écrit aussi, on va sauter rapidement, dans Daniel 11, 32. Daniel 11, 32. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Celui qui connaît, il va agir aussi avec fermeté. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il faut qu'on connaisse notre Dieu. Il faut être silencieux à un moment donné, méditer sur Dieu, qui il est. Nous lisons Daniel 11, 32.
Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Voilà. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude.
Voilà. Ceux du peuple, malgré les subterfuges de l'ennemi, les intrigues, les complots, les gens qui connaissent Dieu agirons avec fermeté. C'est la première chose. Nous voulons que tout nous soit soumis, parce que c'est notre thème. Si tout est soumis à Dieu, tout est soumis à ses enfants. C'est pourquoi Dieu ordonne qu'il soit puissant. En quelque sorte, vivez le fait que tout vous est soumis. Expérimentez cela. Vivez cela devant tout le monde. Comment accéder à cela? Connaître d'abord Dieu. Deuxième étape, nous lisons toujours Daniel. Daniel, premier chapitre. Du premier verset au verset 17. Connaître Dieu, mettre sa foi en lui. C'est la première étape. Deuxième étape.
La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azarie. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge ? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes.
On continue jusqu'au verset 19. 20, jusqu'au verset 20. Verset 18.
Au terme fixé par le roi, pour qu'on lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume.
Amen. Gloire à Dieu. Voyez, bien-aimés, ces enfants, ces jeunes se retrouvent en situation difficile. Leur pays a été vaincu, mais c'était des jeunes qui étaient sérieux avec Dieu. là, nous avons déjà dépassé l'étape connaître Dieu et mettre foi en Dieu. Eux, ils connaissaient Dieu et ils avaient mis leur foi en Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils lui étaient soumis. Au fait, ce que nous voulons pour les autres, en disant « Ah, mais oui, mais les Français ne croient pas. Ah, mais oui, mais l'humanité n'obéit plus à Dieu, les gens sont devenus rebelles. Il faut que Dieu règne sur tout le monde, mais qu'il commence par régner sur toi d'abord. Si tu veux que tu sois un instrument qui va faire que Dieu règne sur les autres, ben, il y a déjà un territoire qu'il doit conquérir, c'est toi-même. C'est la deuxième étape, ou la troisième, si nous voulons considérer que la foi est séparée de la connaissance. Mais moi, je lis les deux, connaître Dieu et mettre foi en Dieu, ça c'est la première étape. Deuxième étape, que nous-mêmes nous soyons soumis à Dieu. Si nous sommes soumis à Dieu, être soumis, ça ne veut pas dire être parfait. Il ne faut pas se tromper. Pierre n'était pas parfait, mais il était soumis à Jésus. Il était soumis à Dieu. Et on a vu ce qui s'est passé avec lui par la suite. Vous savez, quand quelqu'un laisse sa femme et ses enfants pour suivre le maître pendant 3 ans, hein, de gauche à droite, c'est quelqu'un qui est soumis. Il n'est pas parfait, mais il est soumis. Il vit par le maître, c'est ça. Quelqu'un qui est soumis, il vit par le maître. C'est le maître qui le dirige. Il regarde au maître pour savoir les intentions du maître et il suit. C'est ça, quelqu'un qui est soumis. C'est quelqu'un qui a soif du maître. Ces enfants-là, ils ont voulu se soumettre à Dieu, même s'ils considéraient que leur peuple ne s'était pas soumis à Dieu. Et ils ont dit, nous allons nous soumettre. Donc nous n'allons pas manger, par conséquent, nous n'allons pas manger les mets du roi qui proviennent des sources parfois impures. Nous allons nous contenter des légumes et de ce dont nous avons l'habitude de manger en Israël pour ne pas être souillés. Leur responsable dit, mais vous allez me mettre en situation difficile parce que vos amis d'autres peuples, eux, ils mangent les vrais mets, les bonnes viandes, les bons jus, mais vous allez vous contenter des légumes et de ce que vous mangez en Israël. Mais vous aurez une santé qui n'honore pas le roi. Vous aurez une mauvaise santé. Ils ont dit, nous connaissons notre Dieu. Nous préférons nous soumettre à lui. Si nous nous soumettons à lui, sa gloire va se manifester et notre corps va suivre. Nous aurons une meilleure santé. Tentons l'expérience. 10 jours, pendant 10 jours, eux, ils ont mangé selon ce qu'ils trouvaient correct. Et les autres ont mangé selon ce que le monde trouvait vitaminé. Eh bien, on a vu la suite. C'est eux qui avaient une meilleure mine. De sorte que non seulement ils avaient une bonne santé, ils avaient également l'intelligence. Ils ont reçu une intelligence supérieure à celle de leurs concurrents. Parce que cette intelligence venait du ciel. Rappelez-vous, mon introduction, c'était quoi? Tout est soumis à Dieu. Même l'intelligence. Même l'intelligence. Dieu peut agir dans tous les domaines. Tout est soumis à Dieu. Mais si nous voulons expérimenter cela, il faut que nous-mêmes nous soyons soumis à Dieu. C'est comme ça que son autorité va prendre sur nous et nous aurons autorité sur le reste comme si nous-mêmes nous étions Dieu. C'est ça la réalité, bien-aimé. C'est fort, mais c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Vous savez, J'ai même fait exprès de ne pas citer certains passages parce que parfois c'est mal utilisé par d'autres personnes. Mais ça va très loin par rapport à l'autorité que Dieu nous donne, jusqu'à dire ceux à qui vous retiendrez le péché, ils seront retenus. Ceux à qui vous pardonnerez, ça sera pardonné. Ça va très loin. Ça va très loin. Mais saisissons déjà l'exemple des amis de Daniel. Vous savez, après cette affaire, au chapitre 2, le roi a eu un songe qui l'a effrayé et il a demandé l'explication à tous les magiciens qui étaient à son service. C'est-à-dire aux concurrents de Daniel, en quelque sorte, par rapport à la sagesse de Daniel et ses amis. Ils ont dit au roi, est-ce que tu peux nous expliquer d'abord, nous relater le songe, comme ça nous tenterons de te donner une explication. Le roi a dit, si vous êtes des vrais magiciens, des vrais voyants, vous devriez savoir même quel songe j'ai fait. Sinon, vous êtes des escrocs. Et si vous ne me donnez pas la réponse, je vais vous tuer tous. C'est là que Daniel et ses amis arrivent près du roi. Ils disent au roi, donne-nous un peu de temps. Et nous te donnerons le songe et son explication. Bien-aimé, comment quelqu'un peut s'engager dans des trucs comme ça? Soit entre nous. Quelqu'un fait un rêve, toi tu lui promets que tu lui diras son rêve. Pour s'engager dans quelque chose comme ça, il faut se sentir comment? Il faut se sentir soi-même Dieu. Ah oui? Daniel chapitre 2. Au verset 16, nous lisons.
Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication.
Voilà. Accorde-nous du temps, nous allons te donner l'explication. Mais pour donner l'explication, il faut d'abord donner le songe. Est-ce que vous pouvez vous engager comme ça vers quelqu'un? On dit, mais bon, je te donnerai le songe et l'explication. Déjà, rien que l'explication, ce n'est pas aisé. Mais s'il faut rajouter le songe en plus, alors là. Mais quand quelqu'un s'engage comme ça, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est comment? Qui est fusionné avec Dieu. Il fait un avec Dieu pour se permettre de s'engager à la place de Dieu. Parce que Dieu seul peut s'engager. Dieu seul peut s'engager dans de telles affaires. Donc Daniel, en s'engageant comme ça, il s'engage au nom de Dieu. Il prend sa place en quelque sorte. Mais oui, parce qu'ils font un. Il est tellement soumis à Dieu qu'ils font un. C'est ce que Dieu attend de nous. Qu'on fasse un avec lui au point qu'on peut s'engager. C'est pourquoi Jésus dit, ceux à qui vous retiendrez le péché, il leur sera retenu. Ceux à qui vous pardonnerez, il leur sera pardonné. Pourquoi il dit ça? Il ne dit pas ça au hasard, ou à tout chrétien qui va faire... parce que certains chrétiens utilisent ça pour maudire même les gens. C'est faux. Jésus le dit aux gens qui font un avec lui. Ils connaîtront la volonté de Dieu devant chaque situation. Ils sauront que là, comme dans le cas d'Ananias et Saphira, Pierre a su que Dieu allait le frapper. Et il lui annonce que tu vas être frappé, tu vas mourir. Ce n'est pas ce que Pierre voulait. C'est l'unité avec le Seigneur qui fait qu'il sait ce que veut son maître. Ce qu'il va faire. C'est ça la réalité. Ton Dieu veut que tu sois comme lui. Que tu sois puissant. Entrons dans cela, bien-aimés. Il faut que nous laissions Dieu conquérir le terrain que nous sommes, le pays que nous sommes. Comme le frère Paul dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand on atteint cette dimension-là, on peut donner des conseils à un pilote. Je dis au pilote, change de direction, ne va plus à Malaga, va plutôt en direction de l'Italie. Maintenant, notre destination, tu lui diras, et Paul a dit au capitaine, le Dieu que je sers m'a parlé. Et quand il y a eu le danger, il a dit au capitaine, lâche tous les prisonniers. Il n'y a aucun qui ne fuira. Mais si tu ne fais pas ça, nous allons mourir nous tous. Le capitaine a obéi. L'unité avec Dieu. Quand Pierre dit à l'infirme, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est l'unité avec Jésus. Lève-toi et marche. Comment il sait qu'il sait ça? Parce que Jésus est en lui, il lui parle, c'est bon. Bien-aimé, tu vas sentir une liberté à faire quelque chose. En réalité, c'est le Seigneur en toi qui agit parce qu'il y a une unité. C'est ça qui manque aujourd'hui. Aujourd'hui, pour trouver des jeunes comme Daniel, c'est un combat. Des gens qui disent, nous allons honorer notre Dieu plus que notre jeunesse. Nous allons paraître comme des jeunes vieux, mais notre Dieu mérite cela. C'est difficile. Chacun veut défendre sa position. Mais je suis jeune, je suis une fille, je suis une jeune fille, je suis un jeune garçon. Mais c'est mes amis. Bien-aimé, entre le ciel, l'unité avec Dieu et tout ça, tu choisis quoi? Vous vous rendez compte de la puissance qu'avaient les jeunes comme Daniel? Dire au roi, laisse-nous un peu de temps et nous te donnerons l'explication et le songe lui-même. Conséquence, Diacre Frère, quand il donne le songe et l'explication, qu'est-ce que le roi dit? Qu'est-ce qui est écrit au verset Attendez, on va voir ça. Parce que le roi a dit... on va lire au verset 46.
Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. »
Je veux lire parce que je n'entends pas avec le micro. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrît des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Le roi est soumis. Il est soumis. Il dit, « Là, je ne peux que me soumettre. » C'est trop fort. Mais c'est parce que Daniel lui-même et ses amis étaient soumis à Dieu. C'est ça qui manque aujourd'hui. Être soumis, ça ne veut pas dire être parfait. Même si Dieu veut qu'on soit aussi parfait. Parce que pourquoi nous disons ça? Nous ne disons pas ça pour que les gens renoncent à être parfaits. Nous disons cela pour que les gens ne prennent pas pour excuse leur imperfection pour rejeter également la soumission à Dieu. Non. Tu es imparfait, soumets-toi à Dieu. Bien-aimé, je me suis posé la question quand je préparais ce message. Mais vraiment, comment connaître Dieu finalement? Parce que je me dis que la clé de tout ça, c'est connaître Dieu. Si tu connais Dieu, ça va conditionner la suite. Connaître Dieu. Voilà la réponse. La réponse qui m'a été donné, c'est plutôt prendre Dieu au sérieux. Si tu veux connaître Dieu, tu dois le prendre d'abord au sérieux. Ça commence par là. Qui n'a pas de Bible aujourd'hui parmi nous? nous avons tous la Bible. Tous les versets de puissance qu'on a cités, qu'on a lus, ça vient d'où? Ça vient de la Bible. Le problème n'est pas connaître ceci ou cela. Le problème, c'est prendre Dieu au sérieux. Et donc, si nous prenons Dieu au sérieux, qu'est-ce qu'il va se passer? Nous chercherons à vivre tout ce qui est écrit. Et en cherchant à vivre tout ce qui est écrit, nous le connaîtrons davantage. Davantage. C'est comme ça. Désormais, bien-aimés, prenons Dieu au sérieux. Comme Nebuchadnezzar l'a pris au sérieux quand Daniel a donné la vision. Il a pris Dieu au sérieux. Il a dit, je me soumets. Votre Dieu est le véritable. Ce que tu sais de Dieu, cherche à le vivre aussi. Mets ta foi en ce que tu lis de Dieu dans la parole et soumets-toi à Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Laissons faire Dieu. Comme Jésus a dit à Jean-Baptiste qui refusait de le baptiser, il dit « Laisse faire. Il faut que ça se passe ainsi. Je me soumets. Je sais que ce n'est pas normal que tu me baptises, mais laissons faire, puisque c'est la volonté de Dieu, la volonté de mon Père. Je me laisse faire. Apprenons à laisser faire Dieu. Apprenons à suivre Dieu et non pas à le canaliser selon nos goûts, mais à le suivre, lui. Apprenons à nous effacer comme Paul et à laisser Christ vivre en nous. À nous effacer comme Jean-Baptiste et à laisser Christ prendre le dessus en nous. Oublions notre jeunesse, oublions notre beauté, notre richesse, tout ça c'est rien. La gloire de Dieu est au-dessus de tout ça. Soumettons-nous au Seigneur. Connaissons le Seigneur. Cherchons à expérimenter ce que nous connaissons de lui. C'est ça le prendre au sérieux. Chercher à expérimenter ce que nous connaissons de lui. Il a promis la guérison, cherchons à expérimenter cela. Il a promis la délivrance, cherchons à expérimenter cela. Il a promis que nous ne manquerions de rien, cherchons à expérimenter cela. Bien sûr, toujours sans forcer, dans la prière, dans la confiance en Dieu. Et face à l'opposition, proclamons la victoire en Christ. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Avançons. Si nous croyons, nous allons avancer. Et que Dieu nous aide. Mes mots sont tellement insuffisants pour parler de lui. Prions le Seigneur. Ô Éternel, aide-nous. Nous avons tenté de dire des choses te concernant, mais seul ton esprit peut parler à chaque cœur, afin de nous sortir de plusieurs formes de léthargie pour nous amener à l'action, conscient que nous sommes puissants par le Saint-Esprit. Béni soit ton nom pour tout ce que tu vas faire. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.